Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé. Je veux du fond du cœur vous dire merci.
Agnès Buzyn, très émue, a quitté donc ce matin le ministère de la Santé et cédé la place à Olivier Véran, désigné tête de liste par La République En Marche pour les municipales à Paris à la suite du retrait de Benjamin Griveaux. Le début du marathon parlementaire sur la réforme des retraites, c'est une bataille de longue haleine qui commence et sans tarder, l'opposition a d'ailleurs lancé les hostilités.
La lutte sera dure, implacable, de longue durée et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cette loi soit adoptée.
Et vous avez reconnu Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Un accord à 7 milliards. Alstom s'apprête à racheter les activités ferroviaires du Canadien Bombardier. Aux Maldives, derrière la carte postale, le spectre de la menace terroriste au paradis des touristes, les autorités tentent de gérer comme elles le peuvent les personnes radicalisées. Un centre de réinsertion a été spécialement créé. Enquête sur place de Guillaume Bier dans ce journal. Et puis Elton John, contraint d'arrêter un concert avant la fin à cause d'une pneumonie diagnostiquée le matin même. La star bouleversée a dû quitter la scène en larmes, s'excusant auprès de ses fans. Elton John sans voix, ça nous fait bien de la peine. La Bourse de Paris a terminé ce soir en légère hausse de 0,27% à 6086 points. Et la tendance météo, Anissa ?
Avec un temps mitigé, Isabelle, hein, demain sur une grande partie du pays. En fait, le soleil sera très présent dans le sud. Ça sera une belle journée. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Merci, Anissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À Sébastien Krebs.
Et nous sommes donc à Chanteloup-les-Vignes ce soir. Et pour ouvrir ce journal, nous retournons sur les lieux d'une image qui a profondément marqué. Et pas seulement ici. Hein. C'était il y a 3 mois, le 2 novembre dernier, une nuit de violence urbaine et un lieu de culture tout près d'ici, un lieu de lien social aussi qui est parti en fumée. C'était l'Arche, un chapiteau qui était occupé par une école de cirque incendiée une nuit par les jeunes du quartier sous les yeux d'habitants écœurés à l'époque. Alors on en est où aujourd'hui à Chanteloup-les-Vignes ? C'est Justin Morin et Rémi Bostaron qui sont retournés sur les lieux.
Sur place, tout a été nettoyé. Il reste le cabanon en bois de la compagnie de cirque, juste devant la dalle en béton, avec au milieu une grande flaque d'eau. La directrice de l'association, Neuza Tomasi, ne veut plus penser à ce qu'il s'est passé ici.
Non, ça ne m'intéresse plus du tout, ni de regarder par là. On ne peut pas rester sous des cendres, il faut essayer de reconstruire différemment. Comment on sort plus fort ? Ce n'est pas évident.
Un nouveau chapiteau doit être livré d'ici un mois. Il sera installé à côté, mais à la place de l'ancienne structure, la mairie va reconstruire une salle de spectacle. Beaucoup d'habitants évoquent ici les efforts réalisés pour changer l'image de la ville, profondément transformée avec la rénovation urbaine depuis les années 2000. Le quartier de la Noé s'est désenclavé et il a verdi.
Ils ont démoli les tours, ils ont renouvelé les immeubles, ça fait moins un ghetto.
C'est plus joli. Il y a moins de dégradation, il y a moins de bagarres entre bandes. C'est mieux qu'avant, mais...
Derrière ce « mais », il y a une poche d'une vingtaine de délinquants qui résistent, selon les autorités. Certains seraient liés au trafic de drogue, localisé au pied d'un immeuble. Autour, l'éclairage public est régulièrement vandalisé, ce qui plonge les habitants dans le noir. Et ce qui agace Redouane, une figure bien connue du quartier, ancien médiateur.
On va encore vers les jeunes. Je dis, mais ça te rapporte quoi de faire ça ? Tu nous mets plus dans la merde, dans la peur. Tu ne laisses plus les personnes âgées sortir. Les gamins, tu ne les laisses plus jouer au ballon comme ils jouaient avant sur le marché couvert. On n'a pas assez de personnes pour s'occuper des jeunes qui foutent rien. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Ce problème fait d'ailleurs partie des priorités des 2 listes municipales officiellement déclarées.
Voilà, Rémi Bostaron avec Justin Morin et un reportage qui pose toutes les problématiques qui vont nous occuper tout au long de cette soirée, donc jusqu'à 20h. On sera avec des acteurs sociaux tout au long de cette soirée. On ouvre le débat ce soir sur Europe 1. D'abord, on retourne en studio. Isabelle Millet, c'est à vous pour le reste de l'actualité du jour, avec d'abord un médecin qui remplace une médecin au ministère de la Santé.
Et oui, puisqu'Agnès Buzyn a passé le relais hein, ce matin à Olivier Véran, elle va désormais se consacrer à sa campagne pour la mairie de Paris. Bonsoir Hélène Terzian.
Bonsoir.
Une cérémonie que vous avez suivi ce matin, teintée d'émotion.
Effectivement, les larmes n'ont pas cessé de couler sur les joues d'Agnès Buzyn. Les sanglots dans sa voix ne l'ont pas quittée non plus. Agnès Buzyn, visiblement très émue de quitter son ministère, qui a exprimé à la tribune toute sa gratitude envers ses collaborateurs.
Mesdames et messieurs, c'est avec une grande émotion que je quitte le ministère des Solidarités et de la Santé. Quitter ce ministère, vous l'imaginez, c'est un déchirement. À tous ceux qui travaillent dans ce très beau ministère, je veux du fond du cœur vous dire merci. À chaque instant, dans les moments difficiles, j'ai pu compter sur votre très haut niveau de compétence, sur un engagement nuit et jour. Tu as de la chance, Olivier. Tu as de la chance.
Agnès Buzyn, très applaudie, qui, vous l'entendez dans son discours d'une dizaine de minutes, s'est adressée à son successeur Olivier Véran, un confrère qu'elle connaît bien, a-t-elle dit, en qui elle a une confiance absolue pour reprendre les dossiers du ministère. L'épidémie du coronavirus reste la priorité numéro un, a d'ailleurs assuré son remplaçant. La nouvelle candidate de la majorité pour Paris a ensuite très vite filé à son QG de campagne où elle a commencé à rencontrer tête de liste, équipe de campagne. Elle s'est aussi entretenue par téléphone à la mi-journée avec le dissident Cédric Villani.
Merci beaucoup Hélène Terzian et ce coup de fil avec Cédric Villani. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h. Et puis ils sont vraisemblablement ceux par qui ce jeu de chaises musicales politiques est arrivé. Fin de la garde à vue pour l'activiste russe Piotr Pavlinsky et pour sa compagne, diffuseur présumé des vidéos intimes qui ont conduit Benjamin Griveaux à jeter l'éponge. Ils vont être déférés devant le parquet en vue de leur possible mise en examen demain.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h06. La suite du journal Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
Ça y est Isabelle, le projet de réforme des retraites débarque à l'Assemblée nationale. L'examen du texte a débuté cet après-midi.
41 000 amendements déposés. Les députés vont donc tout devoir reprendre de zéro. Autant dire que ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Claudia Bertram, clairement, l'opposition veut faire traîner les choses.
Oui, les députés de l'opposition entendent utiliser tous les outils parlementaires à leur disposition. Vous l'avez dit, plus de 41 000 amendements déposés, dont plus de la moitié, 23 000 par les députés insoumis. Une obstruction assumée par Jean-Luc Mélenchon.
S'il y a un règlement intérieur, s'il y a une manière de fonctionner pour l'Assemblée, c'est que c'est légitime, non ? Bah alors on l'utilise, voilà.
La lutte sera dure, implacable, de longue durée. Et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cette loi soit adoptée.
Juste avant l'ouverture des débats, les députés communistes ont enfilé des t-shirts avec l'inscription « référendum ». Ils espèrent déposer une motion référendaire dès aujourd'hui. Dans l'hémicycle, Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, a ouvert les discussions dans une ambiance électrique. Il vante une ambition immense face à une opposition qui le coupe à plusieurs reprises.
L'heure est aujourd'hui à la responsabilité face aux Français, par une discussion qui prendra le temps qu'elle prendra, y compris dans le brouhaha, mesdames et messieurs les députés si nécessaire, parce que nous respectons le Parlement et nous respectons les moyens de l'opposition, même lorsque ces moyens ne sont pas mis au service de la progression du débat.
Deux semaines de débat qui s'annoncent donc serrées. Face à ce calendrier jugé intenable, le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, a proposé tout à l'heure un temps programmé de 100 heures sur 3 semaines, ce que les insoumis et les communistes ont refusé.
Claudia Bertram à l'Assemblée nationale pour Europe 1. Parallèlement, les opposants ont remis ça dans la rue aujourd'hui, modestement. Quant aux syndicats qui avaient promis un lundi noir sur les rails, eh bien leur appel n'a pas été entendu cette fois, très peu de perturbations. Près de 10 milliards d'euros récupérés par l'État grâce aux contrôles fiscaux l'an dernier. C'est 1 milliard de plus que l'an dernier, en partie grâce à l'intelligence artificielle. On retrouvera Maud Descamps à Bercy dans le journal de 19h pour nous détailler cette information.
Il est 18h08 sur Europe 1. La suite du journal, Isabelle Millet, Sébastien Krebs.
L'annonce devrait être officialisée d'une minute à l'autre. Alstom rachète les activités ferroviaires du Canadien Bombardier.
Et on en parle avec vous. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Alors, on parle de 7 milliards de dollars, mais ça vaut le coup parce que l'objectif, c'est de devenir un géant du ferroviaire.
Oui, Alstom, qui fabrique notamment nos fameux TGV, veut mettre sur pied un géant du ferroviaire. Pourquoi ? Eh bien, pour tenter de résister, notamment à son grand concurrent chinois. Même si le carnet de commandes est plutôt bien rempli aujourd'hui chez Alstom, seul, l'avenir pourrait être compliqué pour notre géant français. En effet, pour rester à la pointe, il faut énormément investir. Et à deux, on est bien évidemment plus fort pour le faire. Ce qui fait dire aux équipes d'Alstom que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, mais ça fait 3 dans ce cadre-là, puisque ça permet d'allier les dépenses pour la recherche et donc d'aller plus vite. Indispensable au moment où la mobilité est à réinventer. On veut créer un géant de la mobilité durable, complète justement un proche de l'opération. Les deux groupes sont assez complémentaires d'un point de vue géographique et on promet qu'en France, il ne devrait pas y avoir à court terme, en tout cas, d'impact sur l'emploi. On est sur un marché en croissance, assure-t-on en interne. Reste à obtenir quand même peut-être le sésame le plus dur. Le feu vert de Bruxelles, la commission avait bloqué, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques mois, le mariage entre Alstom et Siemens. Mais cette fois dans le camp français, on veut croire que l'on a appris de cet échec pour réussir enfin à se marier.
On suivra ça en tout cas de très près. Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. 4 Français, dont un adolescent de 16 ans, porté disparu après le crash en mer d'un petit avion parti de la Dominique vers la Guadeloupe. Les recherches ont permis pour l'instant simplement de retrouver un sac à dos avec le passeport de 2 des occupants. Un soldat français de la force Barkhane déployé au Sahel pour lutter contre les djihadistes a été retrouvé mort dans son campement au Burkina Faso. L'origine du décès est pour l'instant inexpliquée. Une enquête est ouverte. 99 cas de coronavirus sur le paquebot de croisière Diamond Princess qui est en quarantaine au large du Japon. Ce chiffre porte à 454 le nombre de personnes testées positives dans ce bateau de croisière. Par ailleurs, la crainte du coronavirus a conduit les organisateurs du marathon de Tokyo qui était prévu le 1er mars, a fermé la course aux amateurs. 38 000 étaient attendus. Et puis c'est une première au pays du pétrole. Feu vert à l'exploitation de la première centrale nucléaire du monde arabe dans le nord-est des Émirats arabes unis.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec une édition spéciale ce soir avec Sébastien Krebs en direct de Chantelou-les-Vignes et vous Isabelle Millet.
Et dans quelques secondes, on va partir de Chantelou-les-Vignes jusqu'aux Maldives. L'envers du décor, c'est l'enfer au paradis sur les îles des Maldives. La menace terroriste pèse sur l'archipel.
Et puis les larmes d'Elton John, une pneumonie l'a empêché de finir un concert ce week-end.
Deux heures d'infos, c'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Sébastien Krebs.
Alors Isabelle Millet, quand on pense aux Maldives, on pense aux palmiers, au sable blanc, à la mer turquoise, mais pas vraiment au terrorisme. Et pourtant, c'est la face cachée de ce coin de paradis très prisé que nous révélons. C'est l'enquête d'Europe 1 ce lundi.
Il y a quelques jours, deux terroristes ont blessé trois touristes au nom de l'État islamique. Sur l'archipel, 1400 personnes radicalisées sont surveillées par les services de renseignement. Les Maldives qui ont même décidé de rapatrier leurs djihadistes de Syrie en les réintégrant dans la société. Mais auparavant, ils doivent suivre un programme de déradicalisation et de réinsertion dans un centre spécifique. Guillaume Bier pour Europe 1 s'est rendu sur place.
Voilà, c'est là, juste à côté de la prison.
De hauts murs d'enceinte fraîchement peints en gris, surmontés de barbelés. C'est le futur centre de déradicalisation, à deux pas de l'un des spots de surf les plus réputés du pays, survolé par les hydravions qui transportent les touristes. C'est ici que seront bientôt enfermés les djihadistes maldiviens rapatriés de Syrie, surveillés par de multiples caméras. Pas d'inquiétude pour Ali, 50 ans, qui a toujours vécu sur cette île.
Non, je n'ai pas peur. Puisqu'il y a la prison ici, il y a beaucoup de sécurité sur l'île, donc il n'y a pas de menace.
Un sas de réinsertion dans la société pour djihadistes et pour maldiviens radicalisés. Son futur directeur nous révèle les plans et le fonctionnement. Hommes et femmes seront séparés, aidés pendant un an par des psychologues, enseignants, travailleurs sociaux.
Le principe essentiel, c'est qu'en sortant du centre, ils aient un emploi, en fonction de leurs préférences. S'ils sont engagés dans la société, ça leur fait une occupation dans la vie. Et ainsi, d'autres personnes ne peuvent plus les influencer.
Le programme de ce centre de déradicalisation et réinsertion doit encore être validé ces prochains jours par le président maldivien. Les premiers occupants pourraient arriver ici avant l'été. Sur l'île d'Imafushi, Guillaume Bier, Europe 1.
Et cette enquête Europe 1 signée Guillaume Bier, vous pouvez la retrouver bien sûr sur notre site internet europe1.fr. Et puis je vous le disais dans les titres, Elton John a été contraint de quitter la scène ce week-end en Nouvelle-Zélande. Bonsoir Angèle Châtelier.
Bonsoir.
Le chanteur qui est donc en tournée à Auckland n'a tout simplement pas réussi à aller au bout de son show.
C'est en larmes qu'Elton John a quitté la scène samedi soir au bout d'une heure et demie de concert. L'artiste souffre d'une pneumonie, ce qui l'a empêché d'aller au bout de son show malgré qu'il ait joué et chanté de tout son cœur. C'est ce qu'il a déclaré sur son compte Instagram. Elton John s'est d'abord fait ausculter par un médecin, puis il est revenu sur scène en essayant de chanter deux chansons. C'est alors là qu'il s'est excusé. « Il faut que j'y aille, je suis vraiment désolé », a-t-il dit devant son public en train de l'applaudir. Mais qu'on se rassure, cela ne devrait pas l'empêcher d'assurer le reste de ses dates cette semaine. Demain et jeudi, toujours à Auckland, samedi en Australie. À 72 ans, Elton John avait déclaré que cette tournée serait la dernière. Il sera de passage à Paris du 10 au 13 octobre à l'Accor Hotel Arena.
Et on souhaite un très bon rétablissement bien sûr à Elton John. Merci Angèle Châtelier, spécialiste musique d'Europe 1.